Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, les films de la Gorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Au sommaire aujourd'hui, une spéciale FIFAM 2022, et oui, le Festival international du film d'Amiens, auquel, vous savez, on est très attaché dans l'émission, on est très souvent revenu sur ce festival qui se tient quand même dans la région où est produite Culture Prohibée, la Picardie, même si on va me dire non, les Hauts-de-France, mais nous on reste Picard. Et donc dans cette édition 2022 du FIFAM, nous avons pu voir les films en compétition, mais on va aussi parler de quelques péloches très Culture Prohibée qui sont issues de diverses sections et sélections. Je ne vais pas vous en dire plus parce qu'on va développer dans l'émission et qu'il y a pléthore de films. Vous pourrez également écouter le metteur en scène Jean-Gabriel Perriot, auteur entre autres de Une jeunesse allemande, Nos défaites et Retour à Reims. L'équipe de Culture Prohibée remercie Isabelle Buron, Émilie Barbin et Marie-France Aubert pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue The Prime Cut, disponible sur le site ecstasyofilm.com. À mes côtés pour causer FIFAM 2022 se trouve Damien Demey, celui qu'on surnomme la bête noire de Compiègne, le fameux archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Va-t-il revenir dans un numéro 5 comme Indiana Jones d'ailleurs ? Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, créateur de À l'écoute du cinéma, diffusé sur RCA, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut et attend fébrilement donc Transformers 6, revue Prime Cut d'ailleurs dont il est le rédac-chef, hein, je précise. Bonjour Thomas.
Salut Damien. Salut GG, bien évidemment, salut à toutes. Effectivement, loup-garou Picard, ça sonne mieux que loup-garou Hauts-de-Français. Hein.
Eh bien, restons Picard avec un festival de cinéma emblématique donc, de notre région et qui se tient à Amiens chaque année au mois de novembre. Le FIFAM, le Festival international du film d'Amiens, qui s'appelle FIFAM depuis quelques années pour éviter les amalgames avec une autre association. Parce que normalement, ça devrait s'appeler FIFA. Avant, on l'appelait le FIFA, ce festival, hein, tu te rappelles, mon cher Thomas. Et puis est venue la popularité d'un jeu vidéo qui a fait que on l'a appelé le FIFAM. Je vous fais un petit cours d'histoire qui est plutôt anecdotique d'ailleurs. beaucoup moins anecdotique et le choix de films très très culture prohibée justement dans certaines sections de cette édition du FIFAM 2022, de cette 42e édition quand même. Je veux bien sûr parler de la section robe à paillettes dans laquelle on pouvait trouver par exemple Les Lèvres Rouges, Freak Orlando, The Mask, Casino, Les Demoiselles de Rochefort, Les Derniers Jours du Disco. Voilà, donc on va parler un peu de tout ça avec notre ami Thomas. Bonjour mon cher Thomas.
Alors les amis, j'espère que vous aimez le disco et les paillettes, hein, parce que cette année au Festival du Film, on retrouve un peu de ce dynamisme, de cette fun attitude qu'il y avait déjà sous l'ère Fabien, hein, il y a 5 ans, et qu'on avait perdu durant ces 5 dernières années où la programmation était un petit peu ronronnée un petit peu. Donc il y avait donc cette section robe à paillettes, où on a pu découvrir, redécouvrir un film comme Les Derniers Jours du Disco, bon, qui a été un événement, hein, la salle presque comble, hein, l'occasion de réécouter du disco en faisant la queue au Ciné Saint-Leu, ça c'était cool, tu vois. Mais bon, je trouve que c'est pas un grand film, Les Derniers Jours du Disco, hein, je crois, Gégé, que tu l'as vu aussi. C'est une comédie qui se passe au tout début des années 80, qui marque surtout la fin d'une époque, hein, c'est la fin du disco en fait, et c'est la fin d'une époque et c'est le début des années 80, début des années Reagan, on va dire, hein, avec l'avènement des Youpies. C'est un film qui est quand même plutôt bavard, même s'il y a du disco tout le temps, ça réjouit nos oreilles. C'est un film qui est plutôt bavard et un peu plan-plan, chant contre chant, quoi. Puis en plus, tous les personnages masculins se ressemblent. On a un peu tendance à les confondre tous. Bon, il y a Chloé Sevigny et Kate Beckinsale, qui sont toutes les deux charmantes et mignonnes. Mais bon, moi, je trouve que le film, il est un peu... Bon, c'est pas terrible au niveau de la mise en scène.
Comme tu m'as interpellé, Thomas, sur ce film, parce qu'on en a discuté hors antenne, voilà. Ouais, effectivement, c'est un film qui est assez plan-plan, quoi, pour reprendre ce que tu disais, son contre-champ, voilà, un peu bavard, comme tu le disais. Et je voulais juste te dire que c'est peut-être sympa le disco, mais moi je partage pas ton amour immodéré pour le disco. Alors je sais bien que tu aimes te lancer sur la piste sous la boule à facettes, mon cher Thomas, dans ta plus belle chemise à jabot, mais moi c'est moins mon truc. Voilà, c'est moins mon truc.
Bon, c'est toujours mieux que le métal, hein.
Je m'inscris en faux.
Parmi cette programmation robe à paillettes, j'ai pu découvrir un film d'une réalisatrice que je ne connaissais pas du tout, une réalisatrice allemande qui s'appelle Ulrike Oettinger. Et donc c'est le film qui était programmé, qui s'appelait Freak Orlando de 1980. Alors qui est Ulrike Oettinger? C'est une réalisatrice qui est née en 1942. Elle est photographe, peintre, réalisatrice. Elle est considérée comme une figure artistique du premier plan de l'avant-garde allemande. Elle a à son actif 26 courts et longs métrages. Et son dernier film date quand même de 2020. Elle explore des univers un peu qui sont très culture prohibée. Il y a des films fantastiques, hein, parmi sa filmographie, dont ce Freak Orlando qui se présente un peu sous la forme d'un petit théâtre du monde. Elle raconte une histoire du monde de son début jusqu'au début des années 80, période durant laquelle a été tourné le film évidemment. Elle évoque les erreurs, l'incompétence, la soif de pouvoir, les peurs et la folie, la cruauté et la banalité dans un film découpé en 5 épisodes. Moi, le film m'évoque beaucoup le satiricon de Fellini. Hein. C'est pareil, on passe d'une histoire à l'autre comme ça sur 2 heures. Et elle évoque le christianisme, les mythologies grecques, le nazisme. Bon, le film est très drôle, hein. Il y a des visions très fantastiques, le film est très drôle. À un moment, on voit sur une colline des flagellants, comme dans le 7e saut d'Ingmar Bergman. Mais là, les flagellants, évidemment, on dira qu'ils sont sortis d'une boîte gay du film Cruising de William Friedkin. C'est très très drôle. Il y a plein de trucs comme ça. Bon, parfois, c'est moins drôle, hein. Il y a aussi une référence... Une histoire qui fait évidemment référence à Freaks de Todd Browning. Ulrike Oettinger joue différents personnages dans le film. Hein. Donc on parle aussi du nazisme, hein, de la persécution des marginaux. Alors les marginaux, c'était bien sûr les homosexuels, etc. Donc c'est une grande découverte pour moi. Alors j'aimerais bien pouvoir à l'avenir pouvoir découvrir d'autres films d'Ulrike Oettinger. Ulrike Oettinger qui est une artiste militante lesbienne. Hein. Elle a fait un film de pirates fantastique avec des pirates lesbiennes. J'aimerais bien le voir, je serais curieux de voir ça. Et donc ça me fait passer à un autre film qui parle aussi d'homosexualité, c'est Les Lèvres Rouges de Harry Kumel qui était programmé au festival. Et ça je crois, Gégé, je crois que tu aimes bien ce film.
Alors, j'aime beaucoup ce film dont j'avais déjà parlé longuement hein, dans une précédente saison dans l'émission qui confronte Delphine Seyrig et la belle Danielle Ouimet. Alors Danielle Ouimet, c'est plutôt une actrice qui a eu une carrière plutôt bis, un peu dénudée, enfin plutôt voilà, qui a pas fait une grande carrière. Et ça, c'est son œuvre culte réalisée par Harry Kumel. Alors Harry Kumel, c'est un réalisateur merveilleux. Il a fait Malpertuis. Alors Malpertuis, je vous conseille de voir la version éditée en DVD par la Cinémathèque belge, où il y a le vrai montage, même si le montage déjà, le montage, on va dire, qui a été exploité en salle en France, qui était le seul qu'on a connu pendant de longues années, est tout aussi excellent, mais la version longue était encore meilleure, parce que voilà, c'est un grand film, Malpertuis. Et Les Lèvres Rouges et son autre film fantastique, Harry Kumel, et c'est vraiment... un immense metteur en scène, il est belge, hein, et il propose dans ses Lèvres Rouges, on ne va pas en parler des heures, parce que comme je dis, j'en ai déjà parlé dans l'émission, mais une vraie vision unique du vampirisme, avec une Delphine Seyrig qui est une sorte de Greta Garbo, comme ça, une vampire Greta Garbo, et puis surtout des visions assez uniques, comme ça, sur la plage d'Ostende. C'est un film très, très particulier, très singulier, avec une superbe musique de François de Roubaix, que... on peut écouter en boucle, elle est complètement envoûtante, comme le film est envoûtant, comme Delphine Seyrig est envoûtante. On en oublie presque qu'il y a un mec d'ailleurs dans l'histoire aussi qui au départ est avec Danielle Ouimet, voilà, et qui se retrouve piégé dans cet hôtel, on va dire, avec l'envoûtante Delphine Seyrig. Donc effectivement, c'est un très bon choix de programmation, pouvoir voir ce film sur grand écran, c'est quand même le panard.
C'est aussi un film qui est très ambigu, hein, parce que ce personnage d'homme qui se marie à Danielle Ouimet, et lui, apparemment, n'est pas non plus blanc-blanc, hein, parce qu'il y a une séquence très, très énigmatique où il appelle sa mère, et sa mère qui en fait se révèle être un homme, donc on suppose que c'est un couple ou quelque chose comme ça. C'est un film qui laisse beaucoup de non-dits, et la fin aussi est aussi... très intrigante. Hein. Et j'ai oublié de dire que Delphine Seyrig joue aussi dans Freak Orlando.
Écoutez Culture Prohibée spéciale FIFA.
Après, il y a eu d'autres films dans la section robe à paillettes. Et là, je vais plutôt vous laisser parler parce que c'est pas forcément des films qui, moi, m'enthousiasment beaucoup. Par exemple, Casino de Scorsese, qui aussi était l'occasion de ramener beaucoup de monde au FIFAM lors d'une soirée. Donc, toi, Gégé, t'aimes bien Casino de Scorsese.
Bah, c'est difficile de pas aimer quand même ce film assez extraordinaire. C'est le grand rôle de Sharon Stone. Hein. C'est son acmé dans sa carrière. C'est-à-dire que son personnage absolument unique de femme forte, c'est un personnage qu'elle ne retrouvera jamais dans d'autres films. Aucun autre metteur en scène ne va lui permettre d'avoir un rôle d'une telle ampleur, d'une telle... c'est pareil, d'une telle, comment dire, versatilité, d'une telle force, d'une telle... Enfin, voilà. Grand film. Alors, Scorsese, c'est facile de dire grand film, parce que, bon, c'est un grand metteur en scène, donc la caméra est virevoltante, comme d'habitude. On sent, quand elle est à la table de jeu, l'enivrement avec des plans complètement dingues de cette caméra qui vole partout et qui cerne des détails. Enfin, comme seul Scorsese sait le faire, avec en plus un montage parfait. Un roi. On n'en parle pas assez, je trouve, quand on parle de Scorsese. C'est aussi un roi du montage. Ses films sont particulièrement bien montés. Voilà. Mais bon, voilà. Enfin, en tout cas, Casino, c'est vraiment, pour moi, oui. C'est peut-être d'ailleurs, je pense, le dernier en date, hein, chef-d'œuvre réellement de Scorsese. Il a fait d'autres excellents films. Hein. J'aime bien Silence, par exemple, dans ses derniers films. Mais je trouve que Casino, c'est vraiment exceptionnel parce qu'il réunit tout. C'est-à-dire, il y a sa mise en scène virevoltante, les performances d'acteurs, le côté un peu polar aussi, hein, voilà, le côté aussi féministe de son cinéma. Et en même temps, c'est un succès populaire. Donc, ça réunit vraiment tout ce qui fait le sel des meilleurs films de Scorsese, à l'image des Affranchis, par exemple, ou d'autres films comme Le Loup de Wall Street, qui sont des films comme ça, un peu synthèse, très, très puissants, qui vous entraînent, qui vous emmènent dans une sorte de vortex dont vous ne pouvez plus sortir. Quoi.
Bon, les paillettes, le disco, mais il n'y a pas que le disco dans la vie, il y a aussi la rumba congolaise. Il y avait La vie est belle, un film de Mwenze Gangoura et Benoît Lamy, un film, un classique du cinéma RD congolais, hein, c'est une coproduction entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Et c'est un film qui mettait en scène Papa Wemba, qui est mort il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 ans. Et donc La vie est belle de Mwenze Gangoura, que je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir revoir à cette occasion. C'est un classique du cinéma africain, on va dire. Et ça me permet de faire un petit pont avec un autre film musical, Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy. Là, on est un petit peu encore plus loin dans le temps, hein. Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy. Et je crois, Damien Demey, je crois que tu aimes bien ce film aussi, toi.
Grand souvenir du lycée, Les Demoiselles de Rochefort. C'était à l'époque où il y avait des programmes avec les lycées où on allait voir des anciens films au cinéma. J'y avais découvert Les Demoiselles de Rochefort dont je parlais, mais aussi Freaks, qui m'avait énormément marqué à l'époque. Les Demoiselles de Rochefort, donc, de Jacques Demy. On est sur une comédie musicale à la française. Très sympathique. C'est bizarre avec le temps, en le revoyant. Aujourd'hui, on a des chorégraphies au poil près de danse et tout, alors qu'à l'époque, bon, ils faisaient de leur maximum. Il y a quand même un décalage. Ça reste un film dans la torpeur de Jacques Demy, très coloré, beaucoup de joie en dépit de certaines actions, et avec la participation exceptionnelle de Jane Kelly. C'est drôle de le voir dans un film français, ça fait toujours plaisir. Je trouve que c'est un film qui en ce début, fin d'automne, début d'hiver, apporte énormément de réconfort quand même. C'est agréable, c'était ma petite dose de nostalgie.
Et Jane Kelly qui fait le lien avec les grandes comédies musicales, avec Sidney Donen et tout ça, voilà.
Après cette sélection Robin Payette, on va passer au coup de cœur. Au coup de cœur aussi, encore, la sélection était très, très éclectique, qui montrait aussi bien des classiques du cinéma que des avant-premières. Parmi les classiques du cinéma, il y avait Brazil. Bon, moi, je ne suis pas très fan de Terry Gilliam. Hein. Je laisse les autres parler à propos de Terry Gilliam.
Honte à toi, Thomas. Brazil est un film génial. Enfin bon, bref, celui qui a vu Brazil. En tout cas, moi, quand j'ai découvert ce film, j'étais littéralement scotché par ce film qui m'a emmené dans un autre monde, un autre univers, qui peut faire écho à Orwell. On pense aussi à 84, évidemment, mais on pense aussi à Kafka, c'est-à-dire au côté complètement insensé, absurde, en fait, de cet univers futuriste là, qui nous est décrit avec quand même un Robert De Niro dans un rôle un peu particulier. Voilà, bon, moi j'aime beaucoup ce film qui est un film en fait sur la bureaucratie, en fait, hein. Voilà, c'est ça qui est assez passionnant. C'est quand même gonflé, quoi. On va faire un film de SF, comment dire, une sorte de dystopie, mais sur la bureaucratie. C'est quand même assez génial. Et je trouve le film très bon. Alors, je sais qu'il y a des fans de Terry Gilliam qui trouvent le film surévalué aujourd'hui. C'est un discours qui court un peu comme ça chez différents critiques. Moi, pour moi, ça reste le film de Terry Gilliam que je préfère. Et musique fabuleuse, enfin, tout est au diapason. J'adore ce film.
Musique plus que fabuleuse, iconique même, qui sera repris dans différents médiums. Il y a très peu de personnes, généralement, qui savent d'où vient une musique qu'on entend assez souvent. Je ne vais pas vous refaire le rythme et tout. Mais Brazil, oui, c'est une dystopie extrêmement marquante. Elle est dans le prolongement de 1984, parce qu'on suit toujours quelqu'un, au final, qui est lié... Enfin, dans les dystopies, on suit toujours quelqu'un qui est finalement lié au système, d'une certaine façon, et qui va essayer en même temps, rend toute l'action assez glaciale et terrifiante.
il n'y a pas que les classiques de la SF occidentale, on va dire. Il y a aussi des classiques indiens, Thomas, des classiques indiens qui sont passés dans cette sélection coup de cœur, qui ont été projetés dans cette sélection coup de cœur.
Effectivement, il y avait Duvida, un film réalisé en 1973 par Mani Kaul. Alors, qui est Mani Kaul ? Mani Kaul est un réalisateur et scénariste indien qui est né en 1944. Et à l'exception de Duvida, il est aussi connu pour Uski Roti et La chemise du serviteur, respectivement réalisé en 1970 et 1999. Mani Kaul n'est plus de ce monde, hein, il est mort en 2011 en Inde. Et Duvida relate l'histoire du fils d'un marchand dont sa relation avec sa jeune épouse est mise à mal par un esprit tombé amoureux d'elle. Alors que le fils du marchand est parti pour 5 ans pour faire des affaires, faire de l'argent, l'esprit en profite pour prendre son apparence et aller vivre auprès de son épouse. Alors, c'est un style très particulier, hein, la mise en scène de Duvida. C'est un film très lent, avec la particularité, c'est qu'il fait des images fixes, il fait des photogrammes. C'est étrange. Bon, c'est pas un film exceptionnel, mais c'est intéressant, c'est une curiosité, on va dire. Hein, c'est une curiosité à redécouvrir en salle en janvier. Il ressort en salle en janvier. C'est aussi un film qui est plutôt du côté de l'esprit, hein, parce que l'esprit, lui au moins, il aime la femme qu'il courtise, il lui donne de la tendresse, alors que l'autre est plutôt branché, on va dire, plutôt branché renaissance, quoi, plutôt branché faire du pognon, etc. Donc c'est plutôt un film, on va dire plutôt à gauche. Hein. Non, mais bon, c'est plus une curiosité qu'un grand film, mais tout du moins, c'est un cinéaste que je pense qu'il faut redécouvrir. Donc en salle, en janvier, en France.
Autre film qui sort en salle, Thomas, et que toutes nos auditrices et auditeurs veulent voir absolument, c'est un film au massacre de la licorne, quoi. Unicorn Wars.
Et oui, parmi les coups de cœur du Festival international du film d'Amiens, les cinéphiles amateurs de films d'animation ont pu découvrir une bien étrange œuvre, et peut-être même la plus originale projetée lors de ce festival. Comme tu l'as dit, GG, Unicorn Wars, une coproduction entre l'Espagne et la France, signée Alberto Vázquez II. L'intrigue se déroule dans des contrées reculées ou imaginaires, enfin plutôt imaginaires d'ailleurs, où oursons et licornes sont en guerre depuis toujours. Parmi les bisounours vont en guerre, le soldat célestin a soif du sang des licornes, gage d'une beauté éternelle selon le grand livre sacré. Son frère Dodu, lui, n'aime pas la guerre. Il préfère les myrtilles et les câlins. L'unité dont ils font partie, particulièrement inexpérimentée, quitte le camp d'entraînement pour une mission commando dans la forêt magique. Le réalisateur Alberto Vázquez aime décrire son film comme un croisement entre Bambi et Apocalypse Now. Il fait appel à une esthétique de film d'animation pour enfants, à un univers de contes, de fantasy, dans lequel il place des personnages qui évoquent avant tout un univers enfantin et qui se font la guerre, se comportent comme des personnages tout droit sortis de Full Metal Jacket de Stanley Kubrick ou d'un film d'horreur italien où coulent tripes et viscères. Si Unicorn Wars peut rappeler la série Happy Tree Friends, qui joue ouvertement la carte de l'humour, Alberto Vázquez joue beaucoup sur le décalage entre cette esthétique et les thèmes traités. Sa mise en scène assume avec le plus grand sérieux ce décalage, sans jamais prendre les genres abordés de haut. Les oursons lancent des flèches en forme de cœur dans des scènes d'entraînement qui rappellent Full Metal Jacket et de combat dans la forêt digne de Predator de John McTiernan. Surtout, le graphisme et l'animation sont beaucoup plus aboutis que dans la série télévisée, à laquelle certains ne manqueront pas de faire une comparaison. Sous ces aspects de films de guerre ou d'horreur, Unicorn Wars évoque des thématiques des plus actuelles. La guerre que mènent les oursons contre les licornes étant une parabole sur le rapport de l'homme avec la nature. Par conséquent, ce véritable film d'aventure fantastique n'est pas exempt de poésie, mais ne se montre jamais nié. Il ne s'agit pas non plus de dire une banalité comme « la guerre c'est nul », mais de montrer les ravages que peuvent causer une certaine arrogance, une vision ethnocentrée de soi-même, la soif de pouvoir, la manipulation, la religion sont autant de thèmes dont traite Alberto Vázquez avec une grande intelligence, le film n'allant jamais là où on l'attend. Surtout dans sa conclusion qui délivre un puissant message écologique sans équivoque. Et donc, pour toutes ces raisons, Unicorn Wars se révèle un des films les plus originaux de l'année, mais à ne pas mettre forcément devant tous les regards. Hein. Impossible de s'abstenir. Donc, le film sort le 28 décembre en France. Alors, si vous voulez emmener vos enfants voir ce film en disant c'est un film d'animation, c'est pour les gosses, bah, bon courage.
C'est pour les grands enfants, voyons Thomas, grands enfants que nous sommes toutes et tous, puisque nous écoutons Culture Prohibée. Voilà.
Les grands enfants qui aiment les films de cannibales de Umberto Lenzi ou Ruggero Deodato. Hein.
Il y avait aussi une section archives, mon cher Thomas, dans cette 42e édition du Festival International du Film d'Amiens.
Dans la section archives, j'ai retenu surtout les films. Bon, il y avait plein de films intéressants. Hein. J'ai surtout retenu les films de Jean-Gabriel Perriot. Jean-Gabriel Perriot qui fait des films de montage, qui fait de l'agit-prop, qui fait des longs métrages aussi à partir d'archives, d'archives télévisées, d'archives cinématographiques. Il a fait donc 3 longs métrages, en plus de tous ces clips d'agit-prop, ces courts-métrages, etc. 3 longs métrages qui sont plus connus. Hein. Une jeunesse allemande qui revient sur la bande à Bader Meinhof, hein, comment ils sont passés du combat intellectuel au combat armé. Il y avait Nos défaites, qui est un film, une sorte de film d'atelier à réaliser avec des lycéens. Et surtout aussi Retour à Reims, un film sur le monde ouvrier aussi, comment le monde ouvrier est perçu et comment il a évolué au fil du temps. Donc ce sont des films, on va dire que c'est plutôt une démarche d'historien, hein, une démarche d'historien très politique. Hein. Le cinéma de Jean-Gabriel Perriot est très politique, très engagé. Et j'ai pu rencontrer Jean-Gabriel Perriot et je lui ai demandé d'où lui venait ce goût, cet intérêt pour les archives et qu'est-ce que cela représentait pour lui.
En fait, il y a un hasard totalement factuel. Quand j'étais étudiant, j'étais en stage, un peu employé, enfin entre deux, au Centre Georges Pompidou, au service audiovisuel, qui était un service qui travaillait beaucoup pour faire les vidéos pour les expos, avec les commissaires et tout ça. Et il me propose, pendant plusieurs mois, un boulot où je devais remonter des films préexistants sur des questions d'ingénierie architecturale pour une énorme expo qu'ils allaient faire. Il y avait une centaine de films à remonter. Parce qu'il fallait que ça soit muet, c'était dans des boîtes de la scénographie, il fallait que ça dure 3 minutes, enfin des espèces de règles comme ça qu'il fallait faire. Et je pensais que ça allait être très très chiant à faire, mais comme j'étais payé pour le faire, que je commençais le boulot, c'était forcément excitant de faire un truc à Beaubourg. Et en fait, j'ai trouvé ça fascinant comme exercice, parce qu'en fait, ça m'a... C'était fou de voir qu'à partir de certains films qui n'étaient pas sur le sujet pour lequel ils étaient choisis pour l'exposition, c'est-à-dire un commissaire, je sais pas, avait besoin d'un film sur telle technique architecturale, il prenait un film sur des ponts dans n'importe quel pays du monde, et il fallait réussir à traduire par le montage ce que lui cherchait à l'intérieur du film. Et en fait, j'ai trouvé ça fascinant parce que c'était à la fois très ludique comme exercice, parce que c'est un peu difficile, et en même temps, quand on y arrive, c'est assez jubilatoire. Et c'est là que ça m'a ouvert des portes, parce que pour moi, en tant que cinéaste plus tard, de me rendre compte de la possibilité qu'on avait en retravaillant des films préexistants, de les recontextualiser. On peut aller jusqu'à même changer leur sens, si on veut être... on pourrait aller jusque-là, mais en tout cas qu'on peut les réemployer pour leur faire raconter quelque chose d'autre ou différemment que ce qu'ils portent en premier. Et après, comme moi, je m'intéresse beaucoup aux questions historiques, et que je suis en recherche sur des sujets souvent... plutôt du passé, donc je vois du coup dans ce cas-là, par exemple, beaucoup de films des années correspondant aux événements, à un moment, la possibilité de travailler ces films du passé pour essayer de comprendre les événements auxquels je tourne du tourné est devenue une espèce d'évidence et d'habitude. If you look upon my face, you are watching now the devil. If you look upon my face, you are watching now the devil. What?
vous écoutez Jean-Gabriel Perriot au micro de Culture Prohibée.
Alors, à part une ou deux exceptions où les films viennent d'images, sur lesquelles je suis tombé, qui m'ont posé problème et que j'avais besoin de travailler, la plupart du temps, c'est les images arrivent dans un deuxième temps. Ça passe plutôt, on va dire, par des livres. Je vais tomber sur un... Je ne sais pas, que, comme chacun d'entre nous, d'un coup, on lit un article, il y a quelque chose qui nous arrête, on essaie de comprendre, on va acheter un bouquin, enfin... Et que des fois, cette chose comme ça, là, de recherche personnelle, je vais tomber sur quelque chose qui a à voir avec des images. Et là s'enclenche la possibilité d'un film, où je me dis, ce que je cherche, là, il y a des images qui le portent, est-ce que ça peut m'aider à comprendre mieux ? Et là, l'image arrive. Mais la plupart du temps, j'ai d'abord une question, j'ai d'abord un sujet de préoccupation, et le film à venir arrive quand je découvre des images.
Comment justement vous travaillez ces archives ? Parce que vous faites une narration, vous leur donnez un sens. Est-ce que quelque part, vous n'avez pas peur de les détourner ou d'en faire autre chose que ce qu'elles disent au départ ?
Alors, j'essaie d'être... je fais toujours attention à respecter les images, on va dire, ou ce pourquoi elles ont été faites, etc. Alors, on peut faire des impasses, mais en tout cas, je fais tout pour qu'il n'y en ait pas. Par exemple, pour prendre un exemple, si je vais faire un film comme The Devil, plutôt d'agit-prop sur les Black Panthers, je vais déjà, avant tout, utiliser des images de cinéastes militants de l'époque qui ont filmé ces mouvements-là, et non pas prendre des images de la télévision. Des images qui auraient été faites pour les critiquer. Je vais prendre des images du même camp. Parce que l'énergie correspond à la mienne ou la manière dont je regarde correspond à comment des cinéastes à l'époque ont essayé de participer à ce moment-là. Donc j'essaie souvent, les images que je vais choisir correspondent à mon propre positionnement politique, par exemple. Donc on peut toujours faire des erreurs, mais en tout cas, moi, je fais toujours, même sur les films, si ça ne se voit pas, un gros travail historiographique, etc., de recherche pour savoir ce que j'utilise. Donc j'espère que je ne fais pas de contresens ou je fais tout pour les éviter. C'est plus difficile de le faire, par exemple, quand on utilise des images que l'on critique. Par exemple, si on fait un film qui va critiquer la télévision. Parce que d'un coup, les images, la façon dont on monte, on va faire sortir tout ce qu'on trouve, tout ce que je trouve, moi, de dégueulasse dans la télévision. Donc, je force le trait, forcément. Et donc, il y a de la trahison par rapport à la manière dont ces images ou ces choses ont été montrées à l'époque. Et c'est mon axe critique, mais d'une certaine manière, ce sont des images de mes adversaires. Donc je me permets d'être moins tenu par l'éthique que quand c'est des images de mon propre camp.
Ça fait 20 ans à peu près que vous faites du montage, vous réalisez des films, des courts-métrages, etc. Aujourd'hui, l'image a un autre statut, parce que l'image, elle est partout, voire même qu'elle n'a plus de signification. Je pense à tous ces réseaux sociaux, où tout le monde fait des images à profusion. Pour vous, l'image, quel impact elle peut avoir encore aujourd'hui ? Peut-on encore lui donner une signification ?
Oui, elle en a forcément. Après, je trouve que l'irruption de l'image au quotidien, dans les pratiques de tout un chacun, de se filmer, de se mettre sur les réseaux, de faire des selfies, de documenter sa vie, et non pas seulement dans le cadre privé, mais de les rendre accessibles aux autres. Ça, c'est un mouvement que j'ai du mal à comprendre parce que je ne le fais pas moi-même. Ça me trouble, mais je ne saurais pas comment l'analyser, mais je ne pense pas que ça change le rapport qu'on a aux œuvres des autres, qu'on considère comme des œuvres ou à la télévision. Mais en tout cas, il y a une différence, c'est qu'il y a des images que l'on fait, que l'on balance comme ça, mais qui ne sont pas tout à fait, par exemple, un langage encore, parce qu'elles ne sont pas montées, par exemple, ou très peu. Elles peuvent être un peu habillées, on met des stickers dessus, on peut mettre une musique, mais on est juste... ça interroge le fait que certains filment, mais pourtant ne font pas des films. Et je pense que ça, cette différence, elle est toujours opérante. On sait, quand on regarde la télévision, il y a une construction, il y a des caméras, tout est rodé. On va au cinéma, on sait qu'on voit un film, des champs contre champs. Et la vidéo amateur, on va dire l'usage amateur qu'on fait des images, elle est pour moi d'un autre registre. C'est quelque chose d'autre. Et alors ça doit interférer forcément à un moment, mais j'ai l'impression qu'il y a encore une frontière ou qu'il y a encore quelque chose d'étanche entre ces deux mondes de l'image.
Alors bon, ça fait 20 ans qu'il y a maintenant de l'éducation à l'image dans le cursus scolaire. Est-ce que vous pensez qu'il y en a suffisamment? Vous avez aussi fait un film avec des élèves de première, Nos Défaites. Est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment d'éducation à l'image et par rapport à cette profusion d'images, la télévision notamment, etc.
Ben non, il n'y en a pas du tout assez. C'est même étonnant qu'il n'y en ait pas à ce point-là. Parce que, par exemple, si on prend les cours de langue française où il y a une forte place donnée à la littérature, ça paraît logique et normal. Parce qu'on utilise le langage au quotidien. On a besoin de le maîtriser, de savoir écrire, de lire, de comprendre le sens des choses quand on les lit, et tout autant un document administratif qu'une poésie. Après, on aime, on n'aime pas, ce n'est pas une question de goût des œuvres, mais par contre, on doit réussir à se comprendre les uns les autres, à comprendre la langue. Ça paraît totalement naturel qu'on apprenne la langue, de sa langue maternelle. Mais par contre, ce n'est toujours pas naturel pour l'image, alors qu'on vit dans un monde d'images qu'on est, alors avec des segments différents, le cinéma, ensuite la télévision, aujourd'hui Internet, etc. Les gens fabriquent encore plus aujourd'hui d'images qu'avant. Beaucoup d'informations sont données par les images. On voit quelque chose comme TikTok ou Instagram, c'est-à-dire c'est des médias où c'est l'image qui est en avant-plan. Et on ne donne pas aux jeunes qui arrivent, etc., de clés de comment les lire, parce que c'est comme la grammaire française, c'est-à-dire qu'il y a des manières, comment on construit un plan, comment on fait le montage de l'un à l'autre, etc. Ça permet de savoir qui parle, comment c'est parlé, comment se situe, etc. Et ça permet de lire mieux les choses et de ne pas être juste des moutons qui prenons les images sans comprendre. Alors on n'est pas si bête, à force de voir des images, on a des clés de lecture, mais qu'on considère que ça ne s'apprenne pas. Par exemple, on pourrait faire gagner du temps en montrant quelques classiques du cinéma, quelques émissions télé, il suffit de pas grand-chose, mais ça m'étonne que l'éducation nationale fasse totalement l'impasse là-dessus.
Bah, n'est-ce pas parce qu'on considère que l'image, le cinéma, parce que c'est comme ça qu'on passe par l'éducation à l'image en général, c'est les options cinéma, c'est essentiellement qu'on le considère comme du divertissement.
Oui, il y a une chose plus... Je pense, en dessous, j'ai assisté à pas mal de colloques ou de réunions sur les gens qui travaillent l'éducation à l'image, etc. Et ce qui me fait, ou de professeur, hein, parce que j'ai beaucoup présenté mes films aussi dans les lycées, il y a une certaine chose qui fait qu'il y a une peur de l'image. C'est-à-dire que l'image elle mentirait. Et si, d'ailleurs, souvent les éducateurs à l'image pensent qu'il faut apprendre à les décrypter pour voir comment elles nous mentent. Mais je trouve que c'est un truc très bizarre. Et effectivement, on ne va pas bâtir toute une éducation, on ne va pas inventer une matière qui serait la lecture de l'image comme il y aurait le français, en considérant qu'il faut apprendre parce que l'image, elle ment. C'est un mouvement négatif, ça. Donc évidemment, on ne le fera pas. Mais ça serait pour moi la même chose que dire la langue, elle ment. On peut, dans notre langue, on peut mentir. Et il peut y avoir aussi des fois des mots qu'on emploie mal et du coup, ça fait un contresens, la personne ne comprend pas. Enfin, c'est jamais non plus très clair le langage. Le nombre de fois où il faut qu'on se répète pour essayer de se comprendre. L'ouverture poétique de la langue parlée, c'est la même que celle de l'image. Enfin, on pourrait faire des parallèles. Et pour autant, on ne va pas accuser le langage parlé et écrit français de n'importe quelle langue, de mentir. Dans les climages, on a toujours le présupposé qu'elle ment, qu'on peut manipuler les autres par l'image. Et ça, je trouve ça très surprenant parce qu'on peut aussi le dire du langage. Et du coup, il y a un endroit où les gens qui sont responsables, malgré tout, beaucoup de l'éducation à l'image, pour moi, partent sur de mauvaises bases.
Yeah.
Vous écoutez Jean-Gabriel Perriot au micro de Culture Prohibée.
Est-ce que vous considérez votre travail comme une forme d'éducation à l'image ?
Non, en tout cas pas dans le pas dans la fabrication quand je l'ai fait, etc. Mais il y a un sous-entendu de mon travail, c'est comme je travaille quand je travaille l'archive et l'histoire, que je travaille sur comment les choses ont été représentées. Il y a une chose un peu d'analyse et d'histoire du cinéma et des médias qui se trame à l'intérieur des films et qui peut permettre aux spectateurs de lire des choses d'une interrogation, d'une critique, d'une histoire des images. Et qui peut être, oui, donner des éléments de pas éducatifs, c'est beaucoup trop, mais en tout cas, qui peuvent renseigner.
À propos d'une jeunesse allemande, vous disiez que de plus en plus la télévision apparaît dans le montage du film, et vous dites que la télévision a remporté le combat contre le cinéma. Est-ce que vous pensez que c'est toujours le cas aujourd'hui ?
Alors, à la remporter, juste pour préciser, le combat sur dans l'écriture de l'histoire et des faits. Mais par exemple, le cinéma là, est toujours le grand vainqueur si on parle en termes de divertissement ou de poésie. On sait que quand on va voir même un film Marvel, c'est pas regarder Koh-Lanta, qu'on va quand même payer 14 balles pour aller voir Marvel. L'un n'empêche pas l'autre, hein, mais c'est en termes d'écriture de l'histoire et de la réalité, la télévision, je pense, est massivement plus importante. Aujourd'hui, les choses ont changé parce que la jeune génération, par exemple, ne regarde plus autant la télévision. Et le rapport à Internet et aux médias par Internet change aussi la donne. C'est-à-dire cette manière qu'on a d'aller chercher des informations, il y en a même trop, tellement il y en a, on est perdu. Alors, comme chaque nouveau média, il y a des choses positives, c'est l'accès au savoir, et des choses négatives, ça serait l'éruption des fake news, par exemple, et le manque de filtre qu'aurait Internet. Mais il n'empêche que les choses ont changé, et je pense que la télévision, d'une certaine manière, est critiquée ou surveillée en partie par Internet. On voit dès qu'il y a une chose qui se passe à la télé, des gens envoient des tweets, dénoncent en live les approximations des hommes politiques, par exemple, pendant les débats. Donc, il y a une nouvelle manière. Donc, la télé est toujours prédominante. Mais elle n'a pas forcément toujours le dernier mot, ou pas totalement.
Et justement, vous utilisez des images d'un peu partout, du cinéma, de la télévision, etc. Et votre démarche, notamment pour Retour à Reims, il y a quand même une grosse démarche anticapitaliste, on peut dire. Est-ce que, justement, vous n'utilisez pas les armes de l'ennemi pour le contrer ?
Pas tant que ça, la question se pose forcément en partie, ne serait-ce que parce que j'utilise les mêmes canaux de diffusion que n'importe quel film crapouilleux, par exemple, de droite. C'est les mêmes, c'est un film, mes films passent à la télévision comme n'importe lesquels, et du coup je m'inscris dans un cadre dont je suis censé faire mon ennemi. Si on parle de capitalisme, je m'inscris dans le cadre capitalisme avec ces films-là. Donc je sais qu'il y a mais en même temps, la question, on ne peut pas la résoudre seul avec un film. C'est reconstruire comment on a accès aux images et aux œuvres. Je ne peux pas le faire moi-même avec une œuvre. Mais en termes de... Je crois qu'il y a un endroit où je reste assez vigilant, c'est en termes de grammaire. C'est-à-dire que mes films, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne ressemblent pas au cinéma classique ou à la télévision classique. Il y a une espèce d'exigence et des fois de difficulté à les recevoir parce qu'ils sont un peu arides, parce que on n'est pas perdu, mais on n'a pas beaucoup de pauses, on a quand même des moments où je délègue beaucoup au spectateur, je le prends pas par la main, je j'explique pas tout, je peux montrer des choses un peu difficiles, etc. Donc dans la relation, dans la manière dont je construis mes films, il y a un truc qui reste en contre de la manière dont on raconte normalement le monde au cinéma.
Le fait d'utiliser les archives, on peut dire qu'il y a une démarche d'historien quelque part. Hein. Et justement, parler du passé, enfin utiliser le passé pour parler du présent, quelque part, parce que ça n'incite pas qu'il y a des cycles qui se répètent encore et encore et encore. Je pense surtout à Retour à Reims.
Ça a été pensé par d'autres, l'histoire du cycle, ne serait-ce que l'histoire de la génération. C'est-à-dire que, évidemment, on ne peut pas retenir tout de l'histoire qui est avant nous, on ne peut pas tout savoir, c'est strictement impossible. Donc, d'une certaine manière, des choses se rejouent par génération, en positif et en négatif. C'est-à-dire qu'on peut faire les mêmes conneries, comme on peut faire les mêmes choses bien. Et on voit qu'il y a des espèces de boucles jamais tout à fait les mêmes, mais que malgré tout, des choses se répètent. Mais il y a aussi des choses, si on prend Retour à Reims, sur la classe ouvrière, dont on pourrait penser, par exemple, qu'elles se répètent, alors qu'elles n'ont jamais cessé. Mais le fait qu'on n'en ait plus tout à fait conscience, si on prend la question de la difficulté du travail des années 60, des années 30, c'est pas plus difficile que des gens qui travaillent dans les entrepôts Amazon aujourd'hui. Mais c'est juste que comme le sujet du travail et des difficultés du travail ne font plus, sont plus un sujet d'actualité, sont plus un sujet de débat, etc., on pourrait avoir l'impression quand on voit un film comme Retour à Reims, se dire « Ah oui, mais aujourd'hui, c'est de nouveau, il y a des problèmes. » Non, en fait, il y a toujours eu ce problème-là. Il y a aussi notre manière dont on a d'oublier de tisser des liens ou de faire des ellipses dans des choses qui finalement ne sont pas de l'ordre de la répétition, mais de l'ordre de la continuité.
Nous concluons cette émission spéciale FIFAM 2022, donc la 42e édition du Festival international du film d'Amiens. Nous concluons cette émission de Culture Prohibée donc, par, eh bien, évidemment, la compétition, car que serait un festival sans une compétition, mon cher Thomas ?
Malheureusement, je ne peux aborder toute la compétition, celle-ci étant plutôt éclectique et de bonne qualité. Mais je retiens trois films qui entrent dans la ligne éditoriale de l'émission et qui vont bientôt sortir en salle. Le premier d'entre eux s'intitule Ashkal, une coproduction franco-tunisienne réalisée par Youssef Chebbi. L'intrigue se situe dans le quartier des Jardins de Carthage, quartier de Tunis créé par l'ancien régime, mais dont la construction a été brutalement stoppée au début de la révolution. Deux flics, Fatma et Batal, découvrent un corps calciné. Alors que les chantiers reprennent peu à peu, ils commencent à se pencher sur ce cas mystérieux. Quand un incident similaire se produit, l'enquête prend un tour déconcertant. Le réalisateur et le scénariste disent être très influencés par les cinémas de John Carpenter et Robert Aldrich et signent un film qui commence comme un thriller mais qui s'insinue peu à peu sur les terres d'un fantastique tout en demi-teinte. La mise en scène privilégie le hors-champ pour finalement parler de la corruption aussi bien dans les sphères policières que politiques. Le décor où les deux policiers retrouvent les corps calcinés évoque des lieux mystiques comme Stonehenge, avec ses colonnes de béton et où se déroulent des sacrifices. Ashkal renoue donc avec un fantastique en demi-teinte qui ne donne pas toutes les clés de l'intrigue et évite l'écueil du spectaculaire. Comme il est assez rare de voir du cinéma fantastique venant d'Afrique, Ashkal est à découvrir dans les salles dès le 25 janvier 2023. Autre film qui flirte avec le fantastique, Alma Viva est une coproduction, cette fois entre le Portugal et la France, qui est réalisée par Christelle Alves Mera. Et Alma Viva raconte l'histoire de la petite Salomé qui, comme chaque été, retrouve le village familial, niché au creux des montagnes portugaises, le temps des vacances. Tandis que celle-ci commence dans l'insouciance, sa grand-mère adorée meurt subitement. Alors que les adultes se déchirent au sujet des obsèques, Salomé est hantée par l'esprit de celle que l'on considérait comme une sorcière. Si le film de Christelle Alves-Meira n'est pas vraiment fantastique, il en adopte quand même une certaine ambiguïté, ainsi que son esthétique. À partir d'une histoire de famille, la réalisatrice réussit à créer un climat inquiétant. Le film est visuellement très beau et il est à découvrir le 15 mars 2023 dans les salles. On va maintenant faire un petit tour en Corée du Sud avec About Kim So-hee, un film de Julie Jung, jeune réalisatrice qui avait déjà réalisé A Girl at My Door en 2014. Et About Kim So-hee est son second long métrage. Kim So-hee est une lycéenne au caractère bien trempé. Pour son stage de fin d'études, elle intègre un centre d'appel de Korea Telecom. En quelques mois, son moral décline sous le poids de conditions de travail dégradantes et d'objectifs de plus en plus difficiles à tenir. Une suite d'événements suspects survenus au sein de l'entreprise éveille l'attention des autorités locales. En charge de l'enquête, l'inspectrice Yoo Jin est profondément ébranlée par ce qu'elle découvre. Seule, elle remet en cause le système. About Kim So-hee est une œuvre violente, non pas visuellement, mais sur le plan social, en dénonçant les méthodes de management des centres d'appel. La réalisatrice Julie Jung dit s'être inspirée de faits divers qui se sont déroulés en Corée du Sud. Le film adopte un rythme plutôt lent. La réalisatrice dresse les portraits de deux jeunes femmes qui lui permettent de mettre en évidence comment la société coréenne brise les rêves de la jeunesse coréenne. About Kim So-hee n'est pas franchement le film le plus optimiste de cette sélection, mais tout comme Ashkal, c'est une œuvre très politique. About Kim So-hee sort le 5 avril dans les salles. Queen Majesty, may I speak to thee?
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine. Is this really true? These things I asked of you. Oh, Majesty, could you really care for me? Minstrel and queen, a queen with no king. I'm a minstrel so poor, but could this really mean anything? As long as you love me, and it won't